On va donc entamer notre séance, nos deux sessions l'après-midi. La première, donc, c'est une session consacrée à connaître le travail. Donc, je vais jouer les deux casquettes. Je suis donc président de séance interne et je m'appelle Yves Schwartz. Je suis directeur scientifique du département d'ergologie, analyse pluridisciplinaire des situations de travail, qui a été créé à l'Université de Provence en 1998. Dans la suite d'une longue expérience qui dure depuis un peu plus de 25 ans. Voilà. Et en fin de parcours, je présenterai les deux autres intervenants, ce qui fait que ça me sera décompté du point de vue de mon temps d'intervention. Je prends toutes mes précautions pour ne pas être chassé de la tribune. Merci. Bon. Bien. Alors, donc, dans cette fenêtre du colloque, nous nous posons la question : que peut bien vouloir dire à propos du travail l'expression « chercher à le connaître » ? Cette question nous préoccupe tous ici, mais pouvons-nous cheminer en sécurité sans nous demander de quoi nous parlons ? Sans un minimum de définition du travail, pouvons-nous être sûrs de ce que signifie « le connaître » le travail ? Par exemple, pour présenter une théorie des nombres sans définir en même temps quel ensemble on vise, est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on vise les nombres naturels, rationnels, réels ou de là les imaginaires ? Si on les définit comme l'ensemble des nombres réels, connaître des entités comme i au carré égale moins 1 n'a strictement aucun sens. Bon, j'avoue que c'est une question qui m'a toujours travaillé, tant comme philosophe que comme acteur plus ou moins engagé. Et ce, depuis 68. Quand ce maître si ambigu que fut Louis Althusser, qui n'était pas très loin d'ici, théorisant les appareils idéologiques d'État, affirmait que, comme tous les sujets qui marchent tout seuls, chacun, qu'il soit ouvrier, patron, soldat, occupe bien la place qui lui est désignée dans cette vallée de larmes. Étudiez les places, ici celle de la production sociale, et vous aurez tout ce que vous vouliez savoir sur le travail. Approche, j'en conviens, assez caricaturale, mais qui nous renvoie à un problème profond et récurrent. Comment évaluons-nous les catégories et concepts par lesquels nous décrivons le travail à distance relative de ce qui se trame en lui dans sa durée opérative ? Et par là même, comment évaluons-nous nous-mêmes cette place sociale que nous occupons, nous ici, comme spécialistes supposés du travail ? Ce n'est en rien une question facétieuse ou provocatrice. Elle concerne tout autant l'exercice de nos métiers que le vivre ensemble avec ceux qui travaillent ou ont travaillé. D'ailleurs, en ce sens, tout le monde travaille. Peut-être d'ailleurs y aurait-il quelque sagesse à commencer par là. En tout cas, je le confesse, j'ai toujours rêvé de faire un dialogue socratique autour de cette question, peut-être parce que seule la forme dialoguée nous aide à découvrir nos savoirs, mais aussi nos insavoirs sur des notions quotidiennement manipulées par nous. Certes, si Platon a mis en scène des dialogues sur le beau, le courage, l'amour, le travail n'aurait pu lui fournir une matière, tant nous savons, depuis notamment les études de Jean-Pierre Vernant, un homme de cette maison, que cette notion abstraite de travail est à cette époque anachronique, l'activité industrieuse se divisant dans la Grèce classique en quelques registres hétérogènes. Cela pourrait avoir quelques ressemblances avec ceci. Socrate, Polydaidalos, toi qui es si habile, pourquoi me dis-tu un jour que le travail disparaît, un autre jour qu'il se transforme, le lendemain qu'il a cessé d'être un usage du corps, et à la fin de la semaine que c'est sa valeur qui disparaît ? Je sens la chose m'échapper. Toi qui es compétent, aide-moi, de quoi parle-t-on ? On imagine une première série de réponses expéditives. Voyons, Socrate. Chacun sait, quand il sort de chez lui pour aller à la fabrique, au chantier du Lorion, à l'hospice, au bureau, le pédagogue à l'école, qu'il va travailler. Ne nous complique pas les choses. Socrate, tu parles d'or, Polydaidalos, mais celui qui travaille chez lui toute la nuit, télétravail tout à l'heure, sur ces merveilleuses nouvelles machines à tracer de nouveaux plans pour l'Erechtheion, que son maître d'œuvre lui a demandé pour l'aube. Celui qui parcourt toutes les rues d'Athènes pour proposer aux échoppes les produits de son patron. Ne travaille-t-il pas aussi ? Le travail est-il défini par des temps et des lieux ? Tu t'amuses à nos dépens, répondrait Polydaidalos. Puisque tu insistes, je te donne une définition stricte et imparable du travail. Tous ces exemples et bien d'autres ont en commun de relever d'un échange codifié par nos règlements. Contre un salaire ou une rétribution, contre une certaine quantité et qualité de notre industrie personnelle, on reçoit en échange un salaire ou une rétribution. Cet échange formalisé s'appelle travail. Socrate, cela a quelque apparence de vérité. Mais dis-moi, Polydaidalos, quelque chose me tracasse. Échange formalisé, dis-tu. Mais la mère de famille qui s'occupe des leçons des enfants prépare la bouillie aux olives et tout en même temps lave le linge et pouponne, ne s'active-t-elle pas de façon bien comparable à une salariée, pour employer ton langage, dans la crèche de la rue voisine où grandissent nos futurs hoplites ? À mépriser cette forme-là de travail sous prétexte qu'elle ne serait pas formalisée, ne devons-nous pas craindre qu'Aristophane nous remette en scène la colère de nos compagnes, bien pire que l'assemblée des femmes ? Où veux-tu en venir ? Demanderait l'autre, irrité. Cela me fait penser, dirait Socrate, au propos d'un vénéré sage du travail qui serait avec nous aujourd'hui s'il n'avait rejoint il y a peu le royaume des bienheureux, Jacques Durafourdikos. Un plombier payé par son maître, racontait-il, disait que c'est quand il réparait par amitié et pure bénévolence les tuyaux de son voisin qu'il travaillait vraiment. Vois-tu, Polydaidalos, un essaim d'exemple me vient, rapporté par les voyageurs d'au-delà de nos mers, où les gens échangent divers biens, sans passer par cette formalisation bien visible, définissant des temps, lieux, opérations et contreparties fixes en argent. Je pense au gardiennage des chars au long des trottoirs des cités encombrées du Sud, à la vente de 1000 produits de consommation quotidienne par des camelots dans ces mêmes cités. Sans doute, la formalisation de cet échange n'a pas la visibilité dont tu parles, mais je crois bien qu'elle se prépare dans des agoras cachées où on apprend collectivement comment il faut négocier les contraintes pour survivre. Mais aurait rétorqué Polydaidalos, tu mélanges à plaisir. Acceptons qu'il y ait deux essences différentes du travail. L'une engageant une rétribution monétaire, l'autre appelée travail pour te faire plaisir, mais à l'écart du circuit de la première. Le travail qui s'y fait relève soit de l'un, soit de l'autre. Peut-être as-tu raison avec tes deux essences pour un même mot. Mais, cher Polydaidalos, insinuerait Socrate, n'as-tu pas l'attention un peu trop fixée sur Athènes ? Une enquête, à la manière du vieil Hérodote, menée par Nouroudinos sur l'industrie des pêcheurs de son pays, bien loin au-delà des rivages égyptiens, nous raconte qu'au retour sur le hyco, le quai, il forme trois parts du poisson capturé. La part du don, la part pour nourrir la famille, la part vendue contre la monnaie qui fait loi là-bas. Quand, avec adresse, ils engagent leur corps entier pour pister ce poisson, deviné dans les remous de l'onde, l'ont-ils déjà coupé ou se sont-ils déjà coupés eux-mêmes en trois parties ? Je te vois venir, poisson torpille, reprend Polydaidalos. Soit j'ai proposé une dichotomie sans la prudence nécessaire dès qu'on dialogue avec toi. Ce qui est vrai est ceci. Le travail commence avec nos sociétés d'humains qui ne peuvent assurer leur existence qu'en accomplissant jour après jour des tâches de plus en plus techniques et diverses pour des produits que la nature ne nous fournit pas. Qu'importent les formes, les degrés de codification et d'échange d'argent, ces tâches doivent être divisées entre citoyens, métèques, esclaves. Tout le monde ne peut pas tout faire, mais toutes ces tâches doivent y être accomplies pour que la cité survive. Voilà d'où naît le travail. À la bonne heure, dirait Socrate, le travail ne serait-il pas né alors, il y a quelques 7000 ans, au-delà des terres phéniciennes, avec les premiers villages de paysans, là où, pour la première fois, nos semblables ont organisé leur vie collective autour du labour, de la récolte, de la domestication des bœufs et des chèvres. Bref, les premières sociétés du travail selon ta dernière définition. Pour une fois, tu as dit vrai, acquiesçait l'interlocuteur. J'ai un doute, s'empresserait de dire Socrate. Nos fouilleurs de terre nous rapportent que des milliers d'années avant ces sociétés de paysans, pour chasser, dépecer, nos ancêtres s'échinaient à débuter les lames avec des béquilles en os pressées au coin de leurs épaules. Et encore bien avant, ils débitaient, retouchaient, façonnaient des blocs de pierre, anticipant les plans de frappe selon des méthodes d'une ancienneté, remontant sans doute aux enseignements des dieux et s'adaptant aux multiples accidents que ces méthodes n'avaient pu prévoir. Si du travail on retire cela, es-tu sûr de ne pas te fourvoyer dans notre recherche d'essence ? Franchement, Socrate, dirait Paul Dagalos, quittant la scène excédée, que nous sert égalimatia. À l'Assemblée, on demande des stratèges pour la guerre, mais aussi pour gouverner le travail. Tu ne sers qu'à nous coudre la bouche. C'est vrai, conclurait Socrate, je ne sais plus trop moi-même quoi penser. Peut-être, après tout, ta définition d'échange d'industrie contre argent avait-elle du bon. Je pense en effet que définir le travail est une tâche vaine, mais je pense aussi que demeure quelque chose de très profond sous l'ironie socratique. Il n'y a pas d'essence du travail, mais n'y a-t-il pas une sorte de dramatique commune qui implicitement nous rend acceptable l'usage du même mot « travail » dans des circonstances très différentes. Dans toutes les scènes évoquées, et c'est le propre du génie humain, toute mise en œuvre d'activités industrieuses est anticipée par des normes opératoires et sociales, qu'on peut dire antécédentes. C'était déjà vrai des antiques méthodes de taille paléolithique, levalloisienne ou autre, de l'organisation collective des semailles, des fenaisons, des enclos, des normes diététiques, des procédures de colmatage des fuites, des gammes opératoires, des protocoles ou procédures de respect, du respect des organigrammes, des hiérarchies, des règles de prévention, des contrats et des lois civiles. Pas de travail humain sans normes antécédentes. Mais en même temps, nous l'affirmons abruptement, mais nous l'avons souvent justifié ailleurs, et pas les seuls, il est impossible et invivable que ce travail humain puisse s'approcher et donc se faire connaître comme pur produit de ces normes antécédentes. À propos de cette affirmation qu'on peut dire proprement ergologique, c'est-à-dire qui relève d'une étude de l'activité humaine en général, nous souhaiterions ici mentionner une triple paternité, celle de trois médecins atypiques. Laissant de côté l'exercice des actes médicaux, ils ont chacun confronté leurs interrogations sur la santé et la maladie avec la rencontre, par tout humain, de ces normes antécédentes. Il n'est pas indifférent que ces trois professeurs, docteurs en médecine, le psychologue italien Ivar Odon, le philosophe Georges Canguilhem, l'ergonome Alain Wiesner, dont on a parlé ce matin, aient été, différemment selon leur âge, marqués par la résistance au nazisme et au fascisme, période que l'on pourrait caractériser comme dérive totalitaire des normes antécédentes socio-politiques. Il est particulièrement notable que tous trois aient été profondément interpellés par le gouvernement taylorien du travail, tentative la plus extrême dans l'histoire de corseter l'activité industrieuse par et dans les normes antécédentes. Question, la santé est-elle possible quand les normes antécédentes ne s'offrent plus à l'humain au travail que comme visée d'une hétérodétermination totale et non plus aussi comme ressource pour l'agir ? Sans doute, certains auraient été plus sensibles à l'impossibilité technique de ces hétérodéterminations, compte tenu de ce que Canguilhem avait appelé les infidélités du milieu. Canguilhem, lui, le fut davantage à la dimension invivable, mais les trois nous auront aidés à retravailler la notion même de santé. Articuler l'héritage de ces trois médecins atypiques et sans rapport entre eux bon, est notre fait, je l'assume. Ergologiquement, il nous paraît difficilement réfutable que toute activité humaine, et notoirement les diverses formes évoquées ici comme travail, dans notre dialogue fictif, soit toujours traversé par des débats de normes. Du plus enfoui dans le corps, du quasi-inconscient au plan le plus explicite et revendiqué, toute activité de travail est toujours une sorte de dramatique. Entre les normes antécédentes propres à toute organisation humaine et la mise en distance technique et humaine de ce que je viens d'appeler impossible, invivable, toute activité industrieuse suppose des débats de normes. Pour trancher jour après jour ces débats, il faut la présence opérante en nous de valeurs, arbitrage qui mène à des essais de renormalisation guidant notre agir industrieux. Telle serait notre manière de répondre à l'impossible quête d'essence du travail que Socrate opposait avec impertinence ou certitude pour le diagnostic. Alors, pour finir, nous pouvons revenir alors sur la question « Qu'est-ce que connaître le travail dans ces conditions ?» Tout ce qui résulte de savoir cristalliser, déposé dans les univers de normes antécédentes qui encadrent les situations de travail, on en a vu ce matin, est connaissable, bien plus, est à connaître. Normes techniques, organisationnelles, gestionnaires, juridiques. Le patrimoine des sciences humaines et sociales, qui propose des grilles d'interprétation de l'agir social, est bien entendu à prendre en compte. Mais est-il vrai aussi que toute activité industrieuse se présente comme cumul des débats de normes ? D'où résulte, en chaque lieu et jour où nous avons à vivre, des renormalisations reconfigurant dans l'infinitésimal ou le visible notre milieu de vie et de travail. Si oui, alors l'ambition de connaissance doit en tirer les conséquences. Nos places, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, ne formatent jamais elles seules nos essais de vivre le travail en santé. Cela trace une limite, toujours à redécouvrir, aux anticipations conceptuelles. Bon, certes, Polydaidalos n'avait pas tout à fait tort, comme Socrate le constatait lui-même au terme de l'échange. Bien des contributions ici même, entrent dans le travail sous sa forme d'échange codifié, ce que nous appelons travail stricto sensu, qu'on pourrait définir comme prestation rémunérée dans une société marchande et de droit. Dans notre expérience quotidienne, dans les crises que nous vivons, cette détermination du travail est évidemment fondamentale. Comment déconnecter de ce cadre historique les compétences que l'on doit acquérir sur le travail dans nos sociétés. Il y a quelque chose d'instable, de critique, qui spécifie ces sociétés dans ce qu'on peut appeler un échange d'hétérogène, c'est-à-dire d'argent contre temps d'activité. Et il est légitime que nos collègues compétents en gestion, en organisation technique, en ergonomie, en pathologie et souffrance au travail, en risque professionnel, droit, management, se saisissent du travail sous cette forme stricto sensu, sans devoir se poser d'abord la question platonicienne d'une insaisissable essence, ce qui n'empêcherait pas d'ailleurs un certain nombre d'entre eux de dépasser ce cadre historique vers une préoccupation anthropologique. Mais la question reste néanmoins posée en ces termes épistémologiques et ses implications opérationnelles. Neutraliser cette entrée sur le travail par les débats de normes, qui, elle, n'est plus spécifique à nos sociétés marchandes et de droit, c'est toujours construire le risque de méconnaître ces dramatiques de l'activité qui font histoire et qui peut-être font l'histoire, et qui par là même sont inanticipables. On ne peut prédire comment la singularité des personnes et des groupes, la singularité des situations de travail, vont déterminer cette combinatoire impossible, invivable, face aux normes antécédentes. On ne peut prévoir comment les valeurs vont peser sur ces arbitrages, en chaque cas. C'est pourquoi les connaissances antécédentes sont toujours pour partie à remettre en instruction, sinon on mécanise la vie humaine au travail, ce dont abusent d'ailleurs les panoplies de ratios quantitatifs ou l'évaluation en résultat qui cache précisément ces débats de normes. Alors, je change ma casquette d'un quart de tour seulement pour dire que vont intervenir après moi, d'une part, Abdallah Nouroudine, qui est maître de conférence à l'Université des Comores et qui est aujourd'hui habilité à diriger des recherches, qui a publié en 1997 une thèse sur technique et culture, comment s'approprie-t-on les savoirs transférés, préfacé par Alain Wissner, et qui se préoccupe aujourd'hui beaucoup des questions de travail et développement. Et par ailleurs, Daisy Cunha, qui a passé 4 ans au département d'ergologie, qui a fait une thèse sur la formation humaine entre le concept et l'expérience, élément pour une pédagogie de l'activité, et qui est en train de mener une expérience tout à fait extraordinaire sur la connaissance du travail avec le milieu des mineurs. Et c'est là-dessus quand même que je voudrais insister sur le travail de très grande ampleur qu'elle va peut-être évoquer. La redécouverte de l'univers du travail de la mine, dès lors justement que des universitaires se proposent de se laisser instruire de celui-ci en échangeant sur la longue durée savoir codifié diverses disciplines et savoir investi dans le creuset des débats de normes à travers lesquels les populations de mineurs ne cessent de refaire histoire mine par mine. Alors, dit l'un d'eux, c'est compliqué de généraliser. Et finalement, avant de s'être instruit de ces gestions de l'impossible invivable par ceux qui la gèrent, ne disons pas que l'on ne sait rien, c'est pas vrai, mais que notre science est dans l'inconfort. Et quant à l'étude d'Abdallah Nouroudine, elle rejoint des questions qu'on se pose tous aujourd'hui. Comment penser le développement des peuples, et particulièrement ceux du Sud, dans un contexte universalisé par la mondialisation ? Peut-on penser le développement pour les autres ? Se développer, c'est se travailler, c'est-à-dire se choisir. Les activités industrielles sont un lieu majeur et sous-estimé où se convoquent des valeurs de vie à travers les débats de normes. Peut-on penser des politiques de développement sans s'instruire de ces dramatiques enracinées dans ces histoires singulières et porteuses de réserves d'alternatives ? Voilà, s'interroger sur la nature, même insaisissable du travail, pour mieux approprier les démarches qui cherchent à le connaître, je crois que c'est une position qui a sa logique. L'enquête socratique n'était pas inutile, je crois, pas du tout. Merci.